Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Bienvenue dans Une Heure en Série, saison 2, épisode 19. Une Heure en Série, l'émission qui décrypte et analyse toute l'actualité des séries télé, toutes chaînes confondues. Et pour cette toute première émission de l'année 2021, permettez-moi de vous présenter au nom de toute l'équipe nos meilleurs vœux. Bonne année à tous et bonne année à toutes. Ce soir, nous parlerons, nouvelle année oblige, rencontre coquine et capitalisme du sexe, avec 3615 Monique sur OCS, dystopie politique et lutte des classes avec Brave New World sur Starzplay. Et nos chroniqueurs vont se livrer au petit jeu du panorama des séries à venir et attendues pour cette nouvelle année que l'on espère nécessairement meilleure que celle qui l'a précédée.
Une heure en série. Xavier Le Herpeur.
Alors on allait parler rencontres coquines, donc obligatoirement le casting s'est fait autour de cette thématique et c'est sans surprise que nous retrouvons Ariane Allard ce soir.
Bonsoir
pour
Xavier.
Pour Cosette et positivé donc.
Voilà.
Marjolaine Boutet, bien
bonsoir.
Sûr, m'a menacé. Si tu ne me mets pas à l'émission de 3615 Monique, je ne viendrai plus jamais, je ne pouvais pas me permettre de me passer de Marjolaine. Et évidemment le coquin absolu Benoît Lagan, 5-7 de Mathilde de Munoz et Télé Matin. Nous sommes le 2 janvier, comme vous pouvez le constater, ils sont très en forme. Je n'ose pas savoir ce que vous avez fait malgré le confinement pendant la soirée du réveillon.
On a dormi.
On s'est couché à 20h, c'est comme normal.
C'est ce que vous dites. Alors, on a un peu de courrier en ce début d'année. Nous avons notre ami Fatchi, qui enfin sort du bois, qui s'appelle Fabrice, voilà. Qui nous donne un petit conseil. Là, il ne nous insulte pas parce que nous avons aimé, comme il l'avait fait précédemment chez Yann et Lola. Mais il nous dit, puisque vous avez relayé la recommandation de l'excellente Inside Nine, j'en profite pour recommander à mon tour la très bonne série australienne La Gifle, qui date de 2011 et qui est tirée du tout aussi très bon roman éponyme de Christophe Tsoukas. J'y suis arrivé, ou presque, on va dire. Moi aussi, je n'ai pas été raisonnable dans la nuit du 31 décembre. Voilà. Donc, recommandation tout à fait entendue. J'en ai une autre également qui nous vient de Marie-France. Simplement pour vous transmettre une réflexion sur On the Spectrum, une série qui raconte le quotidien de trois colocataires porteurs et porteuses d'autisme atypique, dont un Asperger. Enfin, une série qui ne place pas les personnes atteintes de handicap psychique au cœur d'une piste de clown, une série réaliste et intelligente.
Ouais.
Elle a tout à fait raison. Du coup, on va l'inscrire ou la semaine prochaine ou dans 15 jours, effectivement, parce que c'est une très bonne série et elle est disponible sur France TV. Pour terminer ce courrier, une menace. Quelqu'un en veut à mon intégrité physique. Je tiens à vous le dire. Ça commence bien, cher Xavier. J'attends avec impatience que vous évoquiez enfin la série We Are Who We Are, j'y suis arrivé, de Luca Guadagnino, série donc américano-italienne. Si ma requête n'est pas satisfaite, vous perdrez tous vos auditeurs algériens, c'est-à-dire moi. Et donc votre rayonnement à l'international en sera anéanti. Voilà, à tantôt, Sabrina d'Alger.
Eh ben, on salue Sabrina et tous nos auditeurs d'Alger.
On salue
l'humour
de
Sabrina.
Pas, bien évidemment. Et le fait qu'elle représente elle seule, donc tous les auditeurs algériens. Mais oui, on en parlera bien évidemment. Chère Sabrina, je suis trop lâche pour de toute façon vous dire non. On commence tout de suite par le premier débat avec 3615 Monique, une série française en 10 épisodes diffusée sur OCS et dont France Inter est partenaire. Une série sur les avancées de la technologie et le mercantilisme libérateur de la polissonnerie en ce début 1980. Tout commence quelques mois avant l'élection de François Mitterrand, Stéphanie, jeune étudiante issue d'une riche famille, entre à l'université, mais désavouant son choix, sa mère lui annonce son intention de lui couper les vivres. Sophie doit donc trouver de quoi subvenir à ses frais, intriguée par l'exposé d'un de ses potes de fac, le très coincé Simon, qui évoque avec passion l'avènement du Minitel. Sophie a l'idée de créer un site coquin. Et pour cela, elle va avoir besoin du génie technologique de Simon, mais aussi du stacanovisme sexuel de Tony, qui va s'avérer une excellente recrue pour faire durer, si ce n'est le plaisir, du moins les conversations triviales avec d'anonymes minitellistes, et générer ainsi un maximum de rentrées financières.
Entre ici, Versailles, Vélizy, Villacoublay et les loges en Josas, le Minitel a été distribué dans 2500 foyers. Imagine un service de messagerie érotique. Dans le cœur de cible, ce seraient les hommes de 15 à 65 ans. J'ai calculé, ça fait 933 clients potentiels. D'après les sondages, un homme se masturbe environ 3 fois par semaine. C'est ça, non?
Oui, j'imagine.
3 masturbations par semaine, par client, sur un mois, ça fait, j'ai des calculs...
11 355.
Waouh. Si on fixe un tarif de 50 francs à chaque conversation qu'on leur propose, sur un mois, ça fait un total de...
567 798 francs.
Exactement.
3615 Monique, une dramédie, selon les propres mots de leur créateur, réalisée par Simon Bouisson, précédemment prénom générique de l'excellente série Stalk sur Slash TV, dont nous avions d'ailleurs ici parlé. Elle est écrite par Emmanuel Poulain-Arnaud, auteur de L'Écobaye au cinéma, dont la sortie repoussée est quand même, je l'espère, prévue courant du mois de janvier 2021, et Armand Robin, co-auteur de la série web Polichinelle, avec dans les rôles principaux Noémie Schmidt, Paul Scarfolio et Arthur Mazé. Du côté de la presse, c'est un peu potache, mais très drôle pour Le Parisien. Et pour Le Journal du Dimanche, c'est une série qui digère ses influences américaines, tout en conservant une identité bien française. Elle ne l'a pas connu, le Minitel, mais si... ça lui dit quand même quelque chose, Marjolaine.
Et si j'ai connu le Minitel, justement, et j'avais une messagerie pas rose du tout. Sur Minitel. Et c'est vrai que pour moi, c'est une série, c'est rare. Je suis quelqu'un de pas très nostalgique, mais là, face à cet objet qui a été un objet de mon enfance, je me suis replongée vraiment là-dedans et ça a fonctionné à plein. J'ai trouvé ça très frais et très rythmé. Les épisodes durent 22 minutes et c'est tout à fait suffisant pour garder justement le rythme de la comédie, parce que pour moi, c'est, enfin, j'ai pas beaucoup vu de drame dans cette affaire.
Je suis comme vous, mais bon, c'est pas mal que je l'ai cité.
Et j'ai beaucoup aimé aussi le discours sur la sexualité, le désir et l'imaginaire, extrêmement important là-dedans. Et
ah, il fallait en avoir face à cette petite boîte en bakélite, pas
oui,
très sexy.
Et justement, et j'ai trouvé ça, j'ai trouvé ce discours-là qu'effectivement, avec quelques phrases, on pouvait faire naître le désir, imaginer une connexion avec un ou une jolie inconnue. Et évidemment, ces garçons qui parlent à d'autres garçons sans le savoir, etc. J'ai trouvé qu'il y avait un côté queer aussi très rafraîchissant là-dedans. Enfin voilà, moi j'ai trouvé ça réjouissant. Après, en tant que prof de fac, cette fac avec un seul prof et un seul amphi, je trouve ça un petit peu bizarre, mais c'est peut-être mon seul bémol.
Un prof empathique qui met ses élèves en valeur.
Oui, j'ai trouvé que les étudiants en 1980 fumaient très peu en amphi. Voilà, donc, mais c'est assez, c'est très bien. Et vraiment, mention spéciale au trio de tête, et en particulier à Paul Scarfolio, que j'ai beaucoup aimé dans Scam, et que je suis ravie de revoir un peu plus grand en tant qu'étudiant. Et je trouve qu'il fait vraiment un travail formidable dans le rôle de Tony.
Benoît Lagan, allez-vous confirmer cet avis déjà très positif, cette belle
mention ? Oui, c'est vraiment une belle surprise. Alors, j'ai quelques petits bémols. Alors moi, je comprends complètement le terme dramédie. On est dans quelque chose qui, effectivement, ne fonctionne pas sur l'humour, sur le gag, mais qui peut faire sourire quand même à plein de moments. Il y a plein de scènes assez drôles. Donc on est vraiment dans le genre de la dramédie américaine. C'est peut-être en ce sens que le JDD disait que ça avait bien ingurgité la mécanique américaine. D'ailleurs, c'est produit par ceux qui produisent 10%. Donc on retrouve typiquement le même mélange des genres entre eux, de la tension, de l'émotion, de l'action et puis du rire malgré tout. J'aime aussi beaucoup le casting et donc Marjolaine a cité Paul Scarfolio. Moi je trouve que Noémie Schmidt et Arthur Mazé sont vraiment aussi très bien dans leurs rôles respectifs. On retrouve la mécanique donc de Simon Bouisson, hein, de Stalk, qui arrive à nous intéresser avec des choses techniques auxquelles on comprend rien. Parce que certes on se souvient du Minitel, mais alors comment ça fonctionnait, comment lui il arrive depuis sa chambre à coucher, à faire fonctionner la machine. Tout ça, il y a du suspense. Ensuite, si la reconstitution des années 70 est réussie, moi je trouve que le problème de cette mécanique, même si les 22 minutes c'est parfait, font que ces personnages sont souvent restent dans leur archétype. Et moi, j'aurais aimé qu'à un moment donné, ces personnages soient plus émouvants, plus touchants. Et au final, à la fin de la série que j'ai regardée vraiment avec plaisir, je suis curieux de savoir ce qui va leur advenir en saison 2, vu que ça se termine avec une fin ouverte qui nous amèneront dans d'autres directions. Mais ces personnages-là, eux-mêmes, peut-être que je vais les oublier. Ils m'ont pas assez marqué, en fait. Ce qu'ils ont vécu, oui, mais eux, moins. Il y a une autre série qui va arriver bientôt, OVNI, sur Canal, qui prend aussi les années 70, et je trouve que fonctionne un peu à l'inverse, où là on a des personnages hyper touchants et avec une mécanique peut-être un peu moins réussie, mais au moins des personnages hyper touchants.
Et qui est au programme la semaine prochaine de Une Heure en Série. Ariane Allard, vous avez connu vous le 3615 Minitel
vous,
comme
j'ai,
moi.
J'ai même des copines étudiantes qui ont bossé.
Et vous êtes une polissonne qui s'assume alors.
Oui, alors moi je suis un petit peu moins nostalgique peut-être de cette période, peut-être que je suis un tout petit peu plus âgée que vous, je ne sais pas. Je ne suis pas certaine que les années 80 étaient des années aussi sympathiques et glorieuses, je pense qu'elles étaient plus brutales que ça. Et j'attendais quelque chose de un petit peu plus caustique et acide. Mmh. Et en fait, je suis tombée sur... Moi, je trouve que l'idée est très bonne, hein, même si c'est pas les premiers à l'avoir exploité. Enfin, j'ai pensé au film La Crème de la Crème. Je sais pas si vous vous souvenez le film de Kim Chapiron qui parlait aussi d'étudiants dans une école de commerce. Alors, c'était un réseau de prostitution. Mais ça ressemble un petit peu à ça. En gros, c'est dénoncer les années fric, hein, quand même, qui sont estampillées comme telles, en tout cas les années 80. Moi, je suis un petit peu déçue, parce que je m'attendais à un truc un petit peu plus politique. Mmh. Et en fait, on tombe sur un truc vraiment potache, hein, en termes de couleurs, en termes d'esprit, en termes de reconstitution vintage, ça joue. Hein. Ça fait plus les années Giscard, d'ailleurs, que les années Mitterrand, oui. Je trouve, donc ça tombe bien.
Ça commence à Giscard.
Voilà. Oui. Voilà. Et en fait, c'est ça. Moi, pour caricaturer, je dirais qu'on est un petit peu plus proche de l'esprit des Sous-doués, puisque c'est un film qui date de l'époque, que de,
que de
Social Network de David Fincher. Ouais. Et je pense pourtant qu'il y avait un truc à raconter par rapport à ça. Parce que ce qui est intéressant dans cette série, c'est qu'elle fait quand même vachement écho à notre époque. C'est-à-dire que ça parle quand même, c'est la naissance, la jeunesse des messageries, des réseaux sociaux et toutes ces choses-là. Donc c'est sympa de faire ça de façon archétypale, je te rejoins Benoît. Mmh. On a quand même le geek, on a quand même le kéké, hein, celui qui va articuler...
c'est celui qui aime bien Marjolaine.
Mieux la messagerie. Oui, moi j'ai un petit fait pour Arthur Mazet, hein, celui qui fait le geek, Simon, je le trouve formidable. Et puis on a la working girl, pour reprendre le titre d'un film aussi de l'époque, qui est quand même une grosse caricature quand même, c'est-à-dire que c'est la bourge quand même glaciale, qui ne pense qu'à faire du fric. Je trouve que c'est un peu dommage. Je suis comme toi, je trouve que les personnages n'évoluent pas. C'est-à-dire qu'une fois qu'ils ont été donnés, ils ne changent pas beaucoup. Ils servent surtout en fait pour faire avancer les situations et les blagues. Donc voilà, je suis partagée. J'aurais aimé que ça soit mieux. Voilà.
Il y a quand même des trouvailles assez savoureuses, puisque les premiers paiements se font au denier du culte, l'église, qu'ils volent quotidiennement. Et on a un personnage de curé, quand même, interprété par Dominique Besnéard.
Producteur de la série.
Producteur de la série, mais ça lui va quand même terriblement bien, entre libidineux, complices, ça fonctionne très bien.
Oui, il y a plein d'idées dans 36-15,
Monique. Et on n'a pas parlé d'Anne Charrier, qui est dans le rôle de la mère de Simon, est tout à fait extraordinaire.
Et Dominique, puisque c'est elle qui donne justement le titre à la série. Je crois qu'on est à peu près tous d'accord de toute façon. C'est très agréable à regarder. Ça aurait pu être effectivement un tout petit peu
plus
fouillé.
C'est un bon divertissement. Voilà, il ne faut pas chercher plus loin.
Ce sera pour la deuxième saison l'occasion d'approfondir les personnages et d'aller vers effectivement la noirceur de ces années 80 que comme 2020, on ne regrette pas beaucoup finalement. 36-15 Monique sur OCS, partenariat France Inter.
You are.
Pastime. Bakar, né à Camden, de parents tanzaniens et yéménites, Bakar s'impose depuis quelques années comme l'une des figures phares de la nouvelle scène anglaise. Un artiste qui revendique ses racines ethniques, affirme ses références musicales, le hip-hop en particulier, et dont le nouvel album sortira en 2021.
France Inter. Une heure en série.
Et c'est l'heure du premier conseil littéraire en ce premier soir d'une heure en série 2021. Les vilaines de Camila Sosa Vilada apparaître aux éditions Métayer dans une dizaine de jours. Car pour accompagner 3615 Monique, série célébrant la libération joyeuse des mœurs, ce roman argentin, premier d'ailleurs, narrant les aventures d'une trans au royaume de la nuit, était pour moi une évidence. L'autrice a été tour à tour prostituée, vendeuse de rue et femme de chambre avant de devenir actrice et écrivaine. Un parcours de tous les excès qui nourrit l'histoire d'une femme flamboyante, née garçon, et qui aujourd'hui règne sur les nuits chaudes et glauques en compagnie de ses sœurs de fortune et d'infortune, jusqu'au jour où ces troublantes reines de l'obscurité anonyme trouvent un nouveau-né dans le parc où elles réchauffent leurs clients. C'est désormais ce petit bout de chou baptisé Éclat des yeux qu'elles vont ranimer de leur amour débordant. L'héroïne raconte aussi son enfance, celle d'un petit garçon qui refusa de devenir un macho alcoolique violent comme son père et épousa la cause de sa mère en se parent peu à peu de ses robes et de ses attitudes. Un roman qui refuse votre apitoiement et se tient à distance de tout excès de sordide, un récit fier et revendicateur, une cour de tous les miracles décrite de l'intérieur par une prose qui claque haut et fort comme un coup de talon haut, qui déniche sans cesse du sacré dans la plus extrême des trivialités et parvient à transformer en poésie prosaïque le monde des amours tarifés. Un monde solidaire, bigarré, tragique nécessairement et pourtant si doux et enveloppant de son irradiante tendresse et que l'on quitte à regret une fois la lecture achevée. Les vilaines de Camila Sosa Vilada apparaître dans une dizaine de jours aux excellentes éditions Métayer. Je vous le recommande. Et c'est l'heure du second débat, puisqu'il n'y en aura que deux aujourd'hui. Brave New World sur Starzplay depuis le 20 décembre. Une série américaine de 9 ou 10 épisodes, j'ai un doute.
9,
me semble-t-il, là, c'est ça. Je ne dis pas de bêtises pour une fois. Adapté du roman éponyme d'Aldous Huxley, connu chez nous sous le titre de Le meilleur des mondes, un roman dystopique paru en 1932 et qui, sauf erreur de ma part, n'a été adapté que 2 fois pour la télévision. Et bizarrement, eu égard à son image de roman culte, n'a jamais été porté au cinéma. Dans un avenir proche, grâce à l'éradication des maladies et des guerres, ainsi que l'abolition de la monogamie et des religions, une partie de l'humanité connaît une apogée. Apogée qui repose sur l'usage abusif de psychotropes autorisés et le recours prononcé aux orgies polysexuelles. Bon, jusque-là, tout va bien. Enfin, je ne sais pas très bien quel est le drame, mais bon. Ces nouveaux élus vivent reclus dans une sorte de dôme paradisiaque, protégés du reste de la Terre, alors qu'à l'extérieur, quelques rares humains vivent encore à l'ancienne, un monde de seconde zone où règne encore l'amour, la violence, sorte de lune à parc que les privilégiés viennent visiter pour se donner quelques frissons et se souvenir de ceux auxquels ils ont réussi à échapper jusqu'au moment où ces deux mondes vont entrer en collision.
Ceci est la Nouvelle-Londres. Tout le monde est heureux à présent. Chacun est à sa place, il n'y a ni faim ni violence.
On n'est jamais seul ici, tout le monde est connecté.
Oui, mais c'est pas lassant à force.
Il lui faut quelqu'un comme vous, pour le guider, pour l'intégrer au corps social.
Vous ne pouvez échapper à votre conditionnement comme nous tous.
Rien de ce que vous verrez ne sera plus jamais comme avant.
C'est vrai que tu connais le sauvage.
Ici, personne ne s'en rend compte de la chance que vous avez.
La vie de tout le monde est parfaite.
Ce n'est pas réel.
De quoi parlez-vous ?
Qu'est-ce qui se passe ?
Si vous arrêtez d'en prendre, vous pourriez découvrir ce que vous ressentez.
On doit arrêter le sauvage avant que cela ne dépasse.
Ce qu'ils vous ont fait est inconcevable. Ce qu'ils vous feront, inimaginable.
Une série de David Wiener, producteur sur Homecoming et Fear the Walking Dead, avec Alden Ehrenreich, que l'on avait vu dans le pitoyable Solo au cinéma, Jessica Brown Findlay, qu'on avait vu dans Harlot, qui est une très bonne série britannique, Harry Lloyd, qu'on a vu dans Légion et Counterpart, et Demi Moore, qui ne change pas. Au meilleur du sens possible du terme.
Vous voulez dire qu'elle joue toujours aussi bien.
Oui, voilà, c'est ça, absolument. La presse américaine n'a pas été très tendre avec la série. Est-ce la raison pour laquelle celle-ci a été officiellement interrompue ? À vous de me dire ce que vous en pensez. Brave New World, des drogues, des orgies, évidemment, Ariane, je suis désolé, mais les évidences sont pour vous. Alors.
On commence vraiment bien l'année. Hein. Alors, comment dire ?
On n'échappe pas à sa réputation.
Voilà, c'est ça. Pourtant, voilà. J'essaie d'être discrète, mais bon, voilà. Je suis embêtée, en fait, parce que je sais
que embêtée.
Objectivement, je sais que ça n'est pas une série terrible. Je sais qu'elle est même plutôt médiocre. Et en même temps, je dois vous dire que ce livre que j'ai lu à mon adolescence, donc au siècle passé, est un livre qui m'a profondément marquée. C'est un court texte, en plus. Et, en fait, de redécouvrir cette série, ça m'a redonné envie de lire ce bouquin. Et surtout, ça m'a fait comprendre que même une adaptation passable montrait à quel point ce texte était prophétique. Parce que je précise quand même que le texte, il date de 1932. Et que les thèmes qui sont abordés, c'est-à-dire, en l'occurrence, c'était une critique très, très aiguë du capitalisme, hein, et de ce qu'on appelait le système fordien ou le fordisme, je ne me rappelle plus ce que c'est. Alors, Ford, ce n'est pas John Ford, hein, c'est Henry Ford. Et je trouve que ça fonctionne assez bien, parce que l'adaptation qu'ils ont choisi de faire, c'est de réactualiser quand même un chouïa. Alors, on ne va pas parler de la mise en scène, on ne va pas parler des acteurs. Il y a des personnages aussi qui sont assez ratés, comme Bernard Marx, que je trouve vraiment, enfin, ce qu'ils ont voulu en faire ne m'intéresse pas. En revanche, la façon dont ils présentent ce nouveau monde, qui ressemble quand même peu ou prou à une espèce de start-up, moi, ça, je trouve ça super intéressant. C'est-à-dire qu'on montre à quel point non seulement les gens sont interconnectés, mais à quel point les gens sont sommés d'être heureux, sont sommés d'être hyper efficaces, sont sommés d'être toujours dans l'efficacité, dans le bonheur, etc. Et dès qu'ils ne fonctionnent plus, on les éjecte. Et ça, je trouve que je suis pas certaine que c'était déjà en germe dans le bouquin d'Huxley. C'est une interprétation, on en pense qu'on en veut, mais c'était en tout cas intéressant de tenter de faire ce transfert entre une époque et une autre. Voilà. Maintenant, je vous laisse accabler cette série, car je sais qu'elle ne connaîtra pas, quand même. Voilà. De fait, elle est interrompue, hein, si j'ai bien compris.
Elle est interrompue, on aurait voulu les... Il y avait quand même un moment où j'ai quand même...
Voilà, non mais je suis d'accord.
Essayez d'être bienveillant.
J'essayais de la défendre un tout petit peu.
Benoît, vous qui aimez tout.
Oui, en fait moi je suis très partagé aussi dans le sens où j'ai vraiment... chaque fin d'épisode, j'avais envie de voir le suivant.
Hein. Ah, ça c'est vrai.
Donc c'est la mécanique, on va dire, de l'envie d'essayer de savoir où il nous entraîne, bon, ça marche. Après, le problème c'est que moi, surtout dès le départ, j'ai trouvé cette série très laide. C'est-à-dire que je trouve que les mondes du futur imaginés dans les années 60-70 à la télévision était plus beau que ce qu'on nous montre là. Moi, je vois du fond vert partout.
Revoyez l'âge de cristal, hein.
Oui, mais
ouais, bon, quand même. Non, mais
ouais, peut-être.
Avant mais vos affirmations là.
Sauf que je pense que dans 10 ou 15 ans, ça aura très mal vieilli. C'est ce fameux Brave New World. Je vois les fonds verts partout et ça m'agace. En fait, ça me gêne et du coup, je ne crois pas trop à cette histoire. Ensuite, je rejoins Ariane, sauf que la dimension politique, pour moi, le problème, c'est qu'elle est trop faible.
Elle est effacée. C'est
elle est effacée par uniquement les histoires de relations sexuelles. En fait, et c'est vraiment axé là-dessus.
Juste.
Alors, il y a une jolie chorégraphie des corps, par exemple. C'est pas inintéressant. Sauf que, à part ça...
Sauf qu'ils sont tous très bien foutus. Visiblement, personne n'a problème de poids.
Non, ils sont tous très jeunes.
Oui, mais pour tirer son coup à cette époque-là, il faut quand même avoir un corps parfait.
À la fois, l'humanité, c'est le meilleur des mondes. Donc, du coup, ils partent du principe que le meilleur des mondes, c'est la publicité. Que le meilleur des mondes, c'est ce monde où les gens sont faux. Et ça, au fond, c'est peut-être un message intéressant, mais moi, ça m'a gêné à force, justement, parce que ils sont tellement sans faute que même quand ils vont pas bien ou qu'ils font des choses pas bien, on n'y croit pas. Et voilà.
Moi, c'est le nombre des réseaux sociaux et d'Instagram aussi. Moi, je pense que c'est ça.
Mais ça va pas jusque-là, justement. Marlène. C'est ça le problème. C'est, alors, moi, je suis pas du tout partagée. C'est très mauvais. Et c'est de la mauvaise science-fiction. Pourquoi? C'est de la mauvaise science-fiction parce que ça ne nous parle pas. Ce qui fait que Le meilleur des mondes, le roman, est un chef-d'œuvre, c'est qu'il parle, en fait, à son époque. Et c'est une critique du fordisme, du totalitarisme, de ce monde post-crise de 29, et effectivement, de tout ce qui ne va pas dans le capitalisme. Là, on nous rajoute, effectivement, un peu d'Instagram sans aller jusqu'au bout, un peu de Matrix sans aller jusqu'au bout.
Un peu de Westworld aussi.
Un peu de Westworld, enfin, un peu de tout, sans réellement de propos. Cette nouvelle Londres est un monde beige, dans lequel tout le monde est en kimono. Ils sont tous super beaux, mais c'est super chiant. Et effectivement...
Ils sont super vides.
Non mais, on ne s'intéresse pas une seconde à ces personnages, parce que ce qui fait tout le sel aussi du meilleur des mondes, au-delà du monde imaginé par Aldous Huxley, c'est aussi son personnage de Bernard Marx, finalement. Alors, en plus qu'ils aient gardé Marx et Lénina, enfin en 2020, ça ne dit plus rien à personne, mais bref. Le Bernard Marx en question,
là, je suis d'accord.
Pour le public ciblé, je ne pense pas. Et encore une fois, ce Bernard Marx, normalement, il est petit et gros, de base, il ne s'intègre pas dans ce meilleur des mondes parce que précisément il a des ça ne marche pas aussi bien que ça et il l'indique dès le début. Là, on voit pas du tout, il faut attendre l'épisode 6 pour avoir quelques explications sur ce monde qui est quand même d'une incohérence assez patente. Et voilà, c'est raté.
Relisez le livre.
Ouais, vraiment, relisez le livre.
Absolument. C'est au livre de poche, si je ne dis pas de bêtises. Bon, j'ai un coup de fil de l'association des défenseurs du beige, Marjolaine, qui est complètement furieux que vous associez leur couleur préférée comme ça à un monde de terne et triste.
C'est le bruit.
Non, non, mais je tiens à vous le dire.
C'est plutôt
vous
blanc cassé, d'ailleurs,
même,
non
oui,
ah,
bah, beige, oui, ah, mais oui. On a tous les...
Bon, alors, c'est Stéphane Plaza.
C'est coquine.
D'accord, alors, Brave New World sur Starsplay depuis le 20 décembre.
Bien moins impliqué. Je suis sans nouvelles, je suis sous un arbre, je réponds ah ouais. L'âme ça s'est cassé, c'est l'ellipse éclipsée qu'ai-je imaginé. Celle qui disait bonsoir mon amour, koala en chérie, faisons un tour, texte désormais. Je peux plus lâcher ma dose dans son. Coucou, 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 comment vas-tu? Comme si j'étais un inconnu, comme si elle m'avait jamais vu nu, je jetterai sa brosse à dents.
François et The Atlas Mountains, 3 ans après Solide Mirage, François-Marie annonce la sortie de Banane Bleue, j'adore déjà, son 7e album, donc Coucou est le premier extrait, et revendique ses racines européennes. Je le cite, notre idée de l'amour qui vient des 18e et 19e siècles est incrustée dans les murs et les parfums des villes, les cafés, les bars et les soirées, les vacances à deux, les week-ends dans une capitale, comme s'il y avait un parfum romantique dans l'électricité européenne. C'est pas mal, hein ?
France Inter. Une heure en série.
L'effet miroir de Benoît Lagane, un effet miroir spécial nouvelle année, car vous nous avez réservé une surprise, cher Benoît, un effet miroir sous forme de quiz show. Oh,
yeah. Et effectivement, Xavier, pour consoler ceux qui espéraient à Noël recevoir sous le sapin la boîte de jeu, une heure de jeu en série. La boîte n'existe pas encore, on y travaille pour Noël prochain. Hein. Et pour ceux qui ont l'impression que cette année, le réveillon du Nouvel An ressemblait à un épisode de Voisin-Voisine, c'est-à-dire confiné avec son voisin de palier pour une nuit interminable, j'ai donc décidé, pour bien démarrer 2021...
Qui se souvient de Voisin-Voisine?
Ça passait sur la 5 et c'était pas possible. Voilà. C'est donc, pour bien démarrer 2021, Xavier, je vous propose de jouer au grand quiz de l'effet miroir afin de tester votre culture série. Alors la règle est simple, le premier qui répond juste gagne et chaque joueur s'appelle Alice. Pourquoi ? Eh bien parce que si vous gagnez, vous restez dans le salon devant votre écran pour regarder les séries et si vous ne trouvez pas la réponse, vous traversez le miroir et vous vous retrouvez à jouer aux échecs avec Beth Harmon dans le jeu de la dame ou avec le numéro 6 dans le prisonnier, c'est selon.
Ah génial. Oh,
moi, j'ai envie de l'écouter du miroir.
Alice Allard, Alice Boutet, Alice Le Herpeur, vous êtes prêtes ?
Ouais.
Dernière info, j'allais oublier, oui, le quiz concernera uniquement les années 70 qui reviennent en force, 36-15 Monique, on l'a vu, ou OVNI, on en parlera la semaine prochaine, et en hommage à VGE, qui nous a quittés en 2020 sous Netflix, après avoir fait éclater l'ORTF en 74. Alors, pour faire un peu professionnel, il me fallait un générique très quiz. J'ai donc piqué éhontément celui d'un générique. À quelle série ai-je pompé ce générique instrumental ? Trois indices. Indice A. Cette série est arrivée sur les écrans américains sous Jimmy Carter, puis dans la France des années 80, avant d'être rediffusée sur Canal Jimmy. Indice B. Le final de cette série rejoue le film de Frank Capra, La vie est belle, en inversant le propos. Indice C. Renaud a chanté cette série en faisant rimer pourri dégueulasse à propos du feuilleton
Dallas.
Apologie du pognon et de la crasse. Bravo.
Ouais, quand même.
Dallas, effectivement, une série née sous Giscard, mais que nous avons découvert et aimé sous ce socialiste de Mitterrand. D'ailleurs, au cas où vous ne le saviez pas, dans Dallas, on savait qu'il y avait le monopole du cœur. C'était plus Bobby que JR.
Un point pour Alice Boutet.
Deuxième question. Quelle série suis-je ? Je suis arrivé sur le petit écran l'année de la naissance de votre actuel président en 1977. Je suis une série à deux têtes, veuillez comprendre par cela que deux héros partagent l'affiche. Je suis deux frères.
Riche et pauvre.
Bravo! Effectivement, le riche et le pauvre avec Peter Strauss et Nick
Nolte.
Bravo. Troisième question, l'extrait mystère. Écoutez bien cet extrait d'un épisode d'une série diffusée juste avant l'éclatement sur la première chaîne de l'ORTF.
On n'entre pas dans le bureau du ministre de la police comme dans un moulin. Je suis en conférence avec le nouveau gouverneur de la Banque de France.
Ce que j'ai à vous dire concerne précisément la Banque de France.
Vidocq.
Bravo!
Deuxième grande série française magnifique avec Claude Brasseur.
Alors voilà, moi j'avais.
Et Daniel Lebrun.
J'allais vous proposer Commissaire Moulin parce qu'on connaissait Méthode Expéditive, mais c'était pas lui. Effectivement, c'est non plus Bruno Le Maire qui ne comprend pas qu'un ministre de la police puisse parler au gouverneur de la Banque de France. C'est ce fameux ex-bagnard. Vidocq, donc, et ses nouvelles aventures avec Claude Brasseur et la musique de Jacques Lourcier.
Ah ouais, formidable.
Qu'est-ce que c'était bien.
Ah, j'adorais cette série.
Daniel Lebrun, dès le générique, avait l'air vraiment d'une garce fille.
Oui,
on savait qu'elle allait
le manipuler.
Voilà,
et la musique de Jacques Lecier. Alors, et pour finir, sur cette musique, une question subsidiaire. En 2020, Alex Baupin a réinterprété avec brio pour nous le générique de la série Les Brigades du Tigre. En 2021, quel est le musicien, artiste, interprète, en playlist France Inter ou pas, hein, Xavier, dont vous aimeriez entendre la reprise d'un générique de série? À chacun de vous de me soumettre peut-être le nom d'un artiste que vous aimeriez. Bien évidemment, cela n'empêche pas Alex Baupin de concourir à nouveau.
Un
évidemment.
Français, donc.
Un français, par
d'accord.
exemple. Voilà, allez-y.
Bah, Clara Philippe... Luciani, pour moi. J'adorerais ah ouais. qu'elle chante un générique
Clara
comme
Luciani.
Ça.
Ouais, ouais.
Philippe Catherine.
Philippe Catherine. Et Marjolaine
Alice Boutet passe.
Alors allez-y, amusez-vous pour l'amour du risque.
Non, mais évidemment. Clara Luciani, Maggie, ce serait génial,
oui,
non,
oui, avec non Maria, ça pourrait être très vois, décalé. De... Ouais.
Merci beaucoup, cher Benoît, pour cet excellent effet miroir à réécouter en
merci
podcast.
Benoît.
Bien évidemment, un jeu auquel nous avons tous participé et qui peut-être annoncera l'année prochaine ouais. le cadeau que tout le monde s'arrachera. La table de jeu, évidemment, de 1 heure en série. 1 heure en série, donc, sur France Inter, avec Ariane Allard, Marjolaine Boutet et Benoît Lagane, une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur le site de l'émission ou dans quelques heures en rediffusion dans la nuit de samedi à dimanche. Pas de troisième débat, mais une large bande-annonce consacrée à 2021, les séries attendues pour l'année prochaine, pas encore vues, mais fort désirées. 2 séries par chroniqueur, trois raisons qui justifient leur curiosité et ou leur impatience. Et on commence avec Ariane Allard.
Alors, je vais commencer par celle qui va être probablement programmée la plus tardivement, mais elle me fait très très envie. Elle s'appelle Diana Boss ou Diana Boss, hein, parce que Diana Ross. Hein. Ce sera sur francetv.slash. Voilà. Et probablement à l'automne 2021. Enfin, les dates ne sont pas encore données précisément. Alors, pourquoi Diana Boss? D'abord, parce que Diana Boss est présentée comme le pendant féminin de Validé, la série de Franck Gastambide sur Canal+, et que moi, je me dis qu'un peu d'œstrogène dans un flot de testostérone, ça fait toujours du bien.
Ça rééquilibre les forces,
voilà,
nous sommes
ça
d'accord.
Un peu. Donc, en gros, le pitch, c'est Diana Boss dresse le portrait de Malika, 23 ans, une jeune femme prometteuse, qui vient d'intégrer un cabinet d'avocats après avoir terminé ses études de droit. Sauf qu'une passion sourde sommeille en elle, et pas si sourde que ça d'ailleurs, puisqu'elle est fan de rap. Donc bref, l'artiste en elle va se réveiller sous le nom de Diana Boss, un savant mélange a priori de bad girl, de cœur tendre et de femme d'affaires. Voilà. La deuxième raison, j'en donnerai deux parce que je suis toujours un peu trop longue, donc la deuxième raison, c'est Marion Seclin. Marion Seclin qui est la showrunneuse de cette nouvelle série. Pourquoi elle? Parce que c'est une actrice et une autrice qui se présente comme étant une féministe. Elle s'est fait connaître par ses tutos très loufoques sur le web au milieu des années 2010, avant d'être récupérée par la télé. Et il y a une seule chose qui met en colère cette jeune femme très très cool et très sympathique, c'est les clichés qui enferment les femmes. Et elle l'a prouvé dans sa série précédente qui s'appelait Zérostérone, qu'elle avait coécrite, hein, elle n'était pas seule, une dystopie tout feu, tout femme, qui pastichait les films d'action pour mieux nous projeter dans une société sans hommes. Donc moi, je me dis qu'on peut lui faire confiance pour niquer le game avec cette nouvelle série.
Diana Boss, sans doute donc à la rentrée septembre 2021
oui,
sur
voilà.
L'excellente Slash TV.
Voilà.
Marjolaine Alice Boutet.
Alors moi, je vais être beaucoup plus proche dans le temps, puisque là, la série que j'attends, elle commence le 15 janvier sur Disney+, et c'est la première série Marvel sur Disney+. Donc évidemment, le MCU est en émoi.
Alors la traduisez MCU.
Oui. MCU, pour moi, parce Marvel Cinematic Universe.
Thank you very much.
Je croyais que c'était un Paul, moi.
Et donc, dans cet univers cinématographique Marvel, pour les francophones, il y a d'abord un casting incroyable. Elisabeth Olsen, donc, qu'on a vu dans les films de Marvel au cinéma, qui joue la télépathe Wanda Maximoff, et qui est dans cette série en couple avec Paul Bettany, qui joue donc le personnage de Vision, qui est censé être mort dans Avengers Endgame. Et ces deux personnages, d'après les deux bandes-annonces assez cryptiques qu'on a pu voir, traversent les époques et les sitcoms familiales chères à Benoît Lagane. Et donc, il semble qu'il y ait un univers méta qui rend hommage à toute cette histoire de la télévision. Donc, évidemment, ça me plaît. C'est une série aussi avec une showrunneuse, Jack Schaefer, qui a écrit Black Widow, que là aussi, dont la sortie ne cesse d'être repoussée, et qui est réalisé par Matt Shakman, qui est un ancien enfant acteur des sitcoms familiales des années 80. Donc tout ça, ce côté absolument méta, me laisse penser, enfin le meilleur, j'espère, de cette série Marvel sur Disney+.
Très bon choix, Benoît Lagane.
Alors moi, ça va être Colin in Black and White, la mini-série pour Netflix de Ava DuVernay et de Colin Kaepernick, vous savez, le footballeur, celui qui s'est agenouillé en 2016 et qui depuis n'a pas rejoué sur un terrain de foot.
Il s'est pas relevé.
Voilà, il s'est pas relevé.
Très mauvais jeu de mots.
toujours.
Mais une mini-série que j'attends avec impatience, d'abord parce que sur Netflix, je trouve que c'est les mini-séries qui sont souvent les plus intéressantes.
Oui, c'est vrai.
Et que elle est signée et produite par Ava DuVernay, qui a fait quand même ce chef-d'œuvre When Wife Is Us. Et cette série, moi, elle m'interpelle parce que elle va raconter la jeunesse de Kaepernick quand, dans ses années lycée. Du coup, ça va permettre de comprendre comment ce footballeur qu'il allait devenir, la star qu'il allait devenir, a pu vivre le racisme à son niveau. Et peut-être qu'on comprendra un peu mieux son geste de façon plus concrète grâce à cette mini-série. Il y aura 6 épisodes. J'ai hâte vraiment de... Je ne sais pas quand Netflix va la dégainer, mais bon, voilà, elle est bien attendue.
On l'attend et on l'inscrira au programme Colin Black and White, donc sur Netflix. Deuxième tour de table, un petit peu plus court, si vous pouvez. Merci beaucoup par avance. Ariane, deuxième série de 2021.
Vous me demandez ça à moi, le supplice absolu.
J'adore lancer des défis.
Voilà. Donc moi, la deuxième série, c'est En thérapie. Elle est beaucoup plus proche, ça. C'est sur Arte.
Elle est inscrite début février à notre programme.
Exactement. Alors, En thérapie, c'est pour moi, la première raison, c'est que c'est une autre façon de raconter des histoires. En thérapie, en l'occurrence, c'est la déclinaison française de Beautiful, qui est une série israélienne qui a été créée en 2008. Et alors, en gros, le format est assez audacieux. Chaque épisode nous projette dans le cabinet d'un psy qui reçoit, qui écoute, qui accompagne une poignée de patients, sachant que ce même psy, dont la vie part totalement à volo par ailleurs, se rend chez sa propre thérapeute une fois par semaine. Donc, autant dire que ce sont les mots M-A-U-X et les mots M-O-T-S, qui sont donc la parole, qui sont au cœur de la mise en scène, ce qui est quand même hardcore, on va dire. Mais c'est tellement hardcore que ça a été décliné dans 17 pays, notamment une version américaine qui est très connue, qui est connue sous le nom de In Treatment ou En Analyse. Ça, c'était ma première raison. La deuxième, c'est les réalisateurs qui sont derrière la caméra.
Impossible
c'est
à savoir, de ne pas les citer, bien évidemment.
Toledano Nakash. Évidemment, on ne s'attend pas du tout à retrouver les réalisateurs de Intouchables ou du Sens de la Fête derrière cette espèce de série dramatique d'abord et minimaliste. Et ben moi, je pense que c'est une très très bonne idée. D'autant plus que l'argument de départ, oui, on verra, l'argument de départ, c'est qu'il situe l'action dans Thérapie quelques jours après les attentats du 13 novembre 2015. Mmh. Et dernière raison très rapide, c'est son casting. Je vous donne juste les noms, comme ça, il n'y aura pas plus. Reda Kateb, Mélanie Thierry, Clémence Poésie, Pio Marmaille, Céleste Brunkel et, alors, last but not least, Frédéric Pierrot dans le rôle du psy. Sachant que c'est une excellente idée parce qu'il a une voix absolument magnifique. Voilà.
On attend ça avec impatience. Ce sera sur Arte début février. Marjolaine.
Alors, moi aussi, c'est une série qui va débarquer sur Canal+ au début du mois de février 2021. Et, alors, dont le titre est Paris Police 1900. Et c'est la
nouvelle. On a compris le concept, en gros.
Voilà. C'est une série par mots-clés. Et donc, je vais parler par mots-clés. C'est une nouvelle série historique, donc, produite par Emmanuel Dossé, qui est le producteur d'Un Village Français. Donc, évidemment, rien que pour ça, je l'attends avec beaucoup d'impatience. Ça se passe à la Belle Époque, en pleine affaire Dreyfus. Évidemment, comme le titre l'indique, le sujet central, c'est la police et la question du maintien de l'ordre. Et évidemment, les échos, là, avec notre situation présente, sont tout à fait évident et manifeste. Donc, montée de l'extrême droite, de l'antisémitisme, mais aussi question des violences faites aux femmes et de la place des femmes, développement des sciences criminelles. Et ce que je trouve aussi tout à fait remarquable et qui éveille mon intérêt, c'est qu'il n'y a aucun acteur connu au casting. Et c'est tant mieux, ça va permettre de se projeter plus facilement, je pense, dans ce Paris de 1899 exactement.
Ça parlera donc des travaux de Bertillon.
C'est ça, le voilà, Bertillonnage.
Qui n'est pas le glacier, hein, je veux dire, vous le préciser au cas où quand même. Benoît Lagarde, vous attendez également, alors, Dougie Kamehaloa,
oui,
sur Disney+.
Oui, c'est le reboot de Dr. Dougie.
Oh, mais on l'attendait pas du tout.
Mais oui, mais c'est une série que j'adorais à la fin des années 80. C'est quand même la série qui a révélé Neil Patrick Harris. Rien que pour ça, ça vaut le coup. C'est une série qui a été inventée par Steven Bochco et David Ikele, quand même deux grandes plumes de la télévision des années 80-90. Et donc, c'est repris par Disney+. Ils relancent le concept. On n'est plus à Los Angeles, on est à Hawaï. Ce n'est plus un jeune adolescent de 16 ans à Los Angeles qui devient médecin. Mais c'est une jeune femme métisse à Hawaï qui devient médecin. Et donc, je me dis qu'il y aura sans doute des choses intéressantes à voir dans cette série qui est écrite par une des plumes de Hawaï Met Your Mother.
Quant à moi, rapidement, je ne fais que les citer. J'attends Foundation sur Apple TV, l'adaptation des romans du cycle de la fondation d'Isaac Asimov, autre grand auteur de science-fiction. Et puis, pour le côté, un tout petit peu, ça me rappellera ma jeunesse, Superman et Lois, les nouvelles aventures, évidemment, du super-héros et de sa fiancée, désormais épouse et mère de famille, d'ailleurs, dans cette nouvelle série. Ce sera sur CW. Merci beaucoup.
Bye.
Girls Just Want to Have Fun, Cyndi Lauper. Là, on est monté sur les tables, hein, faut quand même raconter un peu les coulisses de l'émission. Bon, bah, que dire, un titre indémodable, souvent repris. Alors, je me rappelle, par exemple, la reprise dans Glee. Au piano, par un garçon, ça devenait une balade d'une mélancolie, mais poignante. Mais bon, soyons honnêtes, rien ne vaut le fun original et originel de cet hymne féministe qui, 37 ans,
mais non.
Après sa création, est toujours aussi indispensable. Cyndi Lauper parlait, en justement à propos de Girls Just Want Have to Have Fun. Je voulais vraiment que chaque femme entende cette chanson et pense à son pouvoir. Et ouais, les filles, vous avez du pouvoir.
Girl power.
France Inter. Une heure en série.
Le plateau télé. Ben oui, c'est pas parce qu'on est en 2021 qu'on va changer les bonnes habitudes. Donc, qu'est-ce que vous recommandez avec cet enthousiasme qui est le vôtre, qui est chevillé dans votre ADN? Cette semaine, à la télévision, Ariane, vous nous parlez de Mom sur Arte TV.
Eh bien oui, en parlant de girl power et de femmes, Mom, c'est une sitcom britannique qui est extrêmement tendre et en même temps corrosive. C'est ce que les Anglais appellent bittersweet comedy, c'est-à-dire une comédie douce amère. Je trouve qu'ils font ça merveilleusement bien. On a 3 saisons, parce que Arte TV met en ligne.
C'est l'offre gratuite,
directement,
absolument.
Voilà, hein, les 3 saisons. Elle articule son récit, pardon, autour de Cathy, qui est une jolie veuve, pince sans rire et surtout très très stoïque, de 59 ans. Je précise qu'elle est interprétée par la délicieuse Leslie Manville, qui est l'égérie de Mike Lee, et qu'on va retrouver d'ailleurs dans The Crown, la saison 5 et la saison 6. Donc les 2 derniers, elle interprétera la princesse Margaret. Voilà. Alors pourquoi stoïque? Parce que cette douce épouse, mère et assistante maternelle est trop bien élevée pour oser affirmer que sa vie, toute modeste qu'elle soit, ne s'arrête pas à ce veuvage douloureux. Et que, à l'orée de son 60e anniversaire, comme semble penser tout un aéropage de sympathiques fils, neveux, oncles, enfin bon, frères, grands-parents, beaux-parents, etc., qui veulent surtout la signer à son rôle de mère et de veuve, et basta. Voilà. Sauf qu'au milieu de toute cette petite troupe se niche Michael. Michael, c'est le meilleur ami de son mari, décédé, celui qui a toujours été là pour les coups durs comme pour les chouettes moments de beuverie, enfin d'amitié on va dire, puisque ça se passe quand même en Angleterre, donc voilà. Et pour cause, l'indispensable Michael est secrètement amoureux de Cathy depuis qu'ils ont 17 ans. C'est un magnifique personnage qui est à la fois désespérément lucide et frémissant d'espoir à nouveau. Et c'est surtout un magnifique interprète, puisque c'est Peter Mullan qui s'y colle. C'est le seul acteur au monde, à mon avis, qui, avec son accent rugueux de prolo écossais et son regard de cocker triste, est capable de faire fondre les cœurs et les whiskies les plus secs. Autant dire que Mom est une comédie romantique.
Vous parlez d'expérience.
Voilà. Je ne suis pas du tout écossaise. Autant dire que Mom est une comédie romantique comme on n'en fait plus. C'est tissé de petits riens, c'est jalonné de regards embarrassés, d'étreintes différées et de vannes totalement hilarantes, histoire bien sûr de ne pas pleurer. Et elle raconte, je trouve, avec infiniment de tact, que oui, bien sûr, on peut aimer à tout âge.
Mom sur Arte TV, en écoutant le résumé, j'avais l'impression d'entendre une chanson d'Anne Sylvestre. Cette femme de 60 ans, veuve, cantonnée à son rôle social, et qui n'a qu'une envie, c'est d'exister. Une petite pensée pour Anne Sylvestre qui nous a quittés en 2020, qui a vraiment été une année pourrie.
Oui.
Mais heureusement, 2021, nous retrouvons Marjolaine Boutet qui nous recommande cette semaine Euphoria. L'épisode Noël. Alors,
d'ailleurs,
je veux rajouter
qu'effectivement, les génériques de séries télé, pour revenir au jeu, moi j'aurais aimé qu'ils soient chantés par Anne Sylvestre, c'est peut-être pour ça que
mais
je
tout
n'ai pas
à Sylvestre, de toute façon.
Voilà.
Faut peut-être la refaire.
Donc, oui, moi je vais recommander une série, mais surtout un épisode spécial de la série Euphoria, donc sur OCS. La saison 1 donc de Euphoria, c'était vraiment sur la folie, l'euphorie et comment dire, une adolescence proche de celle de Skins dans les séries britanniques, enfin avec beaucoup de problèmes et beaucoup de drogue. Cet épisode spécial qui est censé se passer le soir de Noël est très différent vraiment sur le plan esthétique comme narratif de cette saison 1. Il est d'un réalisme et d'une sobriété tout à fait salutaire dans ces fêtes de Noël qui ont été, pour le dire, un peu différentes de d'habitude. Et c'est pendant une heure, 2 personnages qui discutent en mangeant des pancakes. Et à partir de là, de ce principe extrêmement simple, il se passe quelque chose de formidable, c'est-à-dire qu'on a 2 êtres qui ont une vraie conversation, brute, honnête, sur le sens ou le non-sens de la vie, sur les terribles choses qu'ils ont faites et qu'ils arrivent ou pas à se pardonner, et sur le rôle de la drogue par rapport à la drogue donc qui leur permet d'oublier, de fuir ce passé. Et à travers ces 2 êtres cabossés et imparfaits qui se parlent, On trouve finalement toute la beauté et la poésie du monde, loin des paradis artificiels et des décorations qui clignotent.
Merci beaucoup Marjolaine. Donc l'épisode spécial Noël d'Euphoria sur OCS.
Et on attend avec impatience l'épisode suivant centré sur Jules pour la fin janvier, à l'écriture duquel l'actrice transgenre, donc Hunter Schaefer, a participé.
Eh ben, très bien, d'excellents rendez-vous pour 2021. Mon petit conseil, plateau télé aujourd'hui, c'est Alice in Borderland sur Netflix qui connaît un carton d'audience assez impressionnant. 8 épisodes, c'est une série japonaise après le manga éponyme. 3 garçons se retrouvent dans un Tokyo alternatif, vidé de toute population, et ils doivent, pour survivre, jouer, participer à des jeux particulièrement sadiques et pervers où la mort n'est jamais très très loin. C'est une série, comme savent le faire les Japonais, à la fois en manga ou en série télévisée, extrêmement nihiliste, on l'a compris, qui n'est rien d'autre qu'une métaphore en fait de la société nippone, qui envoie au casse-pipe, qui sacrifie sa jeunesse, qui lui dit qu'en gros, pour faire sa place, il faut en prendre une, il faut éliminer l'autre, il faut trahir les siens. C'est assez sombre, c'est assez désespéré, et en même temps, c'est une série, un thriller, un polar, extrêmement à la fois violent et addictif en termes de suspense. Je vous le recommande, Alice in Borderland, sur Netflix. Voilà, c'est la fin de ce premier numéro 2021 de Une Heure en Série. Je ne les tiens plus, ils sont déchaînés, il faut qu'ils aillent cuver leur vin. Très rapidement, encore une fois, une très très belle année à vous toutes et à vous tous, ainsi qu'à toute l'équipe d'Une Heure en Série. Mille merci à Ariane, Marjolaine et Benoît d'avoir participé à cette émission. Merci à vous toutes et à vous tous de l'avoir écoutée. Nous vous avons recommandé ce soir 3615 Monique sur OCS et Brave New World sur Starzplay. Et la semaine prochaine, nous évoquerons OVNI sur Canal+, et Bridgerton sur Netflix. Rendez-vous demain 20h avec Jérôme Garcin et son Masque et la Plume consacrée à la littérature. Une Heure en Série, une émission à réécouter en podcast, en rediffusion dans la nuit de samedi à dimanche à 2h du matin. Il y a un site internet où vous pouvez retrouver le programme, les conseils, la playlist que beaucoup d'entre vous saluent. Et puis vous pouvez nous envoyer du courrier, on fera un plaisir de le lire à l'antenne. Une Heure en Série, réalisée depuis un an et demi par l'excellente Marianic Rimbaud et qui a accepté de nous accompagner encore en 2021, comme quoi l'année sera bonne. Programmation musicale assurée par Muriel Pérez. Et j'ai préparé cette émission avec Amel Caldi, avec ce soir à la technique, Guillaume Roux.